De l'autre côté de la musique, une émission proposée et présentée par Michel Giardella, qui, avec bien entendu la musique classique, belle transversale à travers, ben, on peut dire aussi différentes phases, pas forcément musicales, mais aussi des phénomènes de société, donne des aspects associés aux thématiques qui sont abordées chaque mois. Et bien tout d'abord, bonjour Michel, et puis je vous laisse présenter dans un studio un petit peu hors les murs de Radio Royan aujourd'hui cette émission.
Bonjour, voilà, je vous propose aujourd'hui l'histoire d'une des plus grandes violonistes françaises, quelqu'un d'extraordinaire, c'est l'histoire de Ginette Neveu. Ginette Neveu était une violoniste extraordinaire, et nous partagerons quelques moments avec elle de quelques œuvres pour violon. Mais aujourd'hui, nous avons un invité, c'est Michel. Tu te présentes, qu'est-ce que tu faisais dans la vie?
Écoute, j'étais donc pilote professionnel et j'ai assuré la formation du personnel navigant au sein de Royal Air Maroc et pour Air France ensuite, par l'intermédiaire de sociétés privées. Donc j'ai terminé ma carrière avec 17 000 heures de vol. Et en fait, c'est une formation que j'appelle moi la maternelle du pilote de ligne, puisque c'est toute la base première qui se fait sur monomoteur et bimoteur, avant que les pilotes accèdent à la formation sur simulateur. Cette formation dure 6 mois, à la suite de laquelle ils se retrouvent copilote sur Boeing 737 ou Airbus A320.
Voilà, ben merci. Alors, on va commencer l'émission, bien sûr, avec Ginette Neveu. Vous vous doutez bien que l'histoire de Ginette Neveu, si nous avons fait venir Michel, c'est que l'avion a joué un rôle important et dramatique dans cette... Voilà, je vous propose pour commencer Ginette Neveu au violon avec son Stradivarius dans le concerto pour violon de Beethoven.
Thank you.
Voici donc pour le concerto pour violon de Beethoven, troisième mouvement, qui laisse bien introduire cette émission, Michel, à travers bien toute la dextérité de Ginette Neveu et puis aussi bien le monde qui va s'ouvrir dans la thématique aujourd'hui en compagnie de Michel.
Donc version très très belle de ce concerto pour violon de Beethoven avec une virtuose de haut niveau. Alors Ginette Neveu était bien sûr une Française. Sa mère était violoniste, elle s'appelait Marie-Jeanne Ronze, et son père, Maurice Neveu, travaillait à la Bourse à Paris. Dans la famille, tout le monde a été musicien, et son frère, Jean Neveu, était un excellent pianiste aussi. Elle était quand même dans la musique parce que son oncle s'appelait Charles-Marie Vidor. Et Vidor était un très très grand organiste du début du XXe siècle. Et il nous a laissé des compositions à l'orgue extraordinaires. Elle a fait bien sûr ses études de violon au Conservatoire de Paris. Elle a remporté tous les prix. Et le sommet de la gloire de l'époque, c'était le concours Henri Wieniawski, un concours international à Varsovie. Et là, elle s'est trouvée confrontée à ce qui allait être aussi le plus grand violoniste du XXe siècle, David Oistrakh. Eh bien, Ginette Neveu a gagné ce prix devant David Oistrakh. Donc, c'était quand même quelqu'un qui était reconnu par ses pairs de manière extraordinaire. Herbert von Karajan ne voulait faire des concertos exclusivement avec elle. Il l'avait choisie et il ne voulait travailler les œuvres, que ce soit les grands concertos classiques, Brahms, Mendelssohn, Beethoven, qu'avec elle. Et au fait de sa gloire, il fut convenu, les Américains l'admiraient énormément, il fut convenu qu'elle allait faire une très grande tournée aux États-Unis. Elle décida de faire cette tournée aux États-Unis. Elle emmena son frère en piano. Ils avaient prévu des sonates de piano-violon, des sonates de Debussy, des sonates de Beethoven, etc. Donc, il y avait une immense tournée aux États-Unis. Donc, nous sommes le 28 octobre 1949. L'avion est sur le tarmac. Ginette Neveu arrive et avec son frère. Mais ce n'est pas elle qui a la gloire. Ce n'est pas du tout elle. Les centaines de journalistes qui sont là, ils sont pour un autre passager célèbre, Marcel Cerdan. Marcel Cerdan, dont la maîtresse était à New York, c'était Edith Piaf, l'attendait. Et Marcel Cerdan ne devait pas être dans ce vol. Mais son entraîneur dit faut y aller. Et alors, il a négocié avec deux passagers la place qui lui ont bien volontiers pour Marcel Cerdan, qui était quand même une gloire à l'époque. Ils se sont dévoués et ils ont dit « on prendra le prochain avion ». Marcel Cerdan donc, est arrivé dans l'avion. Et ce qui m'a toujours un peu touché, c'est que quand j'ai rangé quand ma mère est décédée, on a rangé les greniers et il y avait des vieux Paris Match. Et sur un vieux Paris Match, en première page, on voyait Ginette Neveu qui donnait son violon à Marcel Cerdan et Marcel Cerdan tenait ce Stradivarius dans ses mains. Ce jour-là, il est 20 heures à peu près et un nouvel avion, un Lockheed, qu'on appelait le Super Constellation. Moi, je me souviens, c'est une toute petite maquette qu'on m'a offert quand j'étais gamin. C'était un Super Constellation, c'était Dinky Toy qui fabriquait ça. Et bon, on était un peu admiratif devant les belles lignes de cet avion parce que ça n'avait rien à voir avec les bombardiers de 44. On va demander à un spécialiste, peut nous dire quelques mots un peu sur cet avion, Michel ?
Eh bien, écoutez, cet avion, c'était une évolution, justement, quand même, des derniers bombardiers de la guerre, 40-45, conçu quand même par la société Lockheed aux États-Unis. Il a été dessiné au départ par Howard Hughes et modifié, amélioré par ses interventions durant la construction du prototype. Alors, celui-ci vole pour la première fois le 9 janvier 1943. C'est le Lockheed Constellation, et le premier s'appelait le L049. Il emporte à ce moment-là 44 à 64 passagers et est équipé de 4 moteurs Wright Cyclone de 2500 chevaux. Les évolutions suivantes donneront justement le L749, puis le L1049G Super Constellation. Donc c'était cet appareil-là. 4 moteurs de 3250 chevaux, des moteurs suralimentés qu'on appelait Turbo Compound, en double étoile, 18 cylindres. Et il pouvait là emporter jusqu'à 92 passagers. La vitesse de croisière usuelle serait de 500 km/h. En fait, 560 km/h environ à 20 000 pieds, soit 6 000 mètres. Le poids de cet avion est de l'ordre de 65 à 68 tonnes. Le rayon d'action, 9300 km. Avec ses réservoirs de bout d'aile. C'est ainsi le premier avion de ligne pressurisé en service. C'est un avion plus confortable et de ce fait abordable, mais par une clientèle aisée. Cet avion a une ligne un peu particulière, très esthétique, la forme d'un profil d'aile, équipé d'un train tricycle, inhabituel à l'époque, triple dérive haute au-dessus des turbulences provoquées par le souffle des hélices. Le dernier modèle fut le 1649A, super constellation avec des moteurs plus puissants, 3400 chevaux, une nouvelle voilure qui était plus grande, plus d'envergure, puisqu'on passait de 37 mètres à 45 mètres, pour une capacité en carburant accrue, lui donnant une autonomie à ce moment-là de 11 080 km. Alors le premier vol de ce dernier modèle eut lieu le 10 octobre 1956. Donc le modèle qui nous intéresse donc, faisait 37 mètres d'envergure, 34 mètres de long et une hauteur de 7,50 m. Pour mémoire, pendant la mise au point, le premier vol expérimental en ligne transatlantique eut lieu avec la TWA sur Washington-Paris via Gander et Shannon le 3 décembre 1945 et le premier service régulier avec la Panam le 15 juin 1947 sur New York-Paris. Plus de 800 avions furent construits, 856 exactement. Voilà pour ce qui est de l'avion.
Ce soir-là, il est aux alentours de 20h, et l'avion, bien sûr, d'habitude prenait la direction nord-est. Et ce jour-là, il prend la direction sud-est. C'est peut-être pas tout à fait ça, vous pouvez me corriger, hein?
Oui, effectivement. Pour partir vers les États-Unis, il vaut mieux prendre un cap nord-ouest et donc passer justement
nord-ouest, oui, bien sûr,
par l'Irlande, Shannon et Gander à Terre-Neuve pour arriver aux États-Unis. Donc là, on va pouvoir en dire un mot.
Voilà, alors bien sûr, il faut parler. Pourquoi cet avion ne prend pas l'itinéraire habituel?
Voilà, alors donc du point de vue, on va déjà donner un mot correspondant à la navigation. La navigation normale est ce qu'on appelle une orthodromie. C'est-à-dire que la distance la plus courte pour aller d'un point à un autre sur notre boule est une portion de grand cercle passant par ces deux points. C'est donc normal de prendre un cap nord-ouest qui nous dirige sur Shannon en Irlande et Gander sur Terre-Neuve comme escale de ravitaillement. Mais suite à un avis de la météo de mauvais temps sur l'Atlantique Nord, puisqu'on sait que les perturbations arrivent toujours de ce secteur, c'est-à-dire des États-Unis, il est décidé de prendre la route sud-ouest qui nous oblige à ravitailler à Santa Maria sur les Açores. Ce qui explique ce changement de plan de vol et cette route sud-ouest. La durée de vol à l'époque était de l'ordre de 20 heures en fonction des vents sur l'Atlantique. Et évidemment, le temps de vol était plus long vers l'ouest puisqu'on était contre les vents réguliers qui viennent de l'ouest vers nous. Temps de vol plus long que sur un retour États-Unis-Paris.
Voilà, ben je vous propose, puisque l'avion va décoller, d'écouter Ginette Neveu dans le concerto pour violon de Sibelius. Thank you.
Thank you.
Vous venez d'entendre le concerto pour violon de Sibelius, deuxième mouvement, qui nous laisse toujours dans cette affaire de cet avion Super Constellation qui s'apprête à décoller avec à bord donc Michel Marcel Cerdan et la célèbre violoniste Ginette Neveu et son frère.
Le vol prend la direction donc des Açores. Et hélas, le drame arrive. Que s'est-il passé exactement? Je ne suis pas très compétent pour dire ce qui s'est passé, parce que j'ai même lu le rapport ministériel sur l'accident, mais c'était un peu nébuleux pour moi. Voilà, donc on va demander à un spécialiste que s'est-il passé exactement?
Eh bien, à la suite du temps de vol correspondant au trajet d'Orly à Santa Maria, Constellation annonce à la radio, 30 minutes avant l'arrivée à Santa Maria, un retard de 10 minutes sur l'heure d'arrivée. Il obtient l'autorisation d'amorcer sa descente vers 1500 mètres d'altitude. La tour de contrôle précise la météo au sol et le ciel est dégagé, une visibilité parfaite. Ayant reçu l'autorisation pour l'approche finale, la descente se poursuit. Les passagers sont attachés, l'équipage a sorti le train d'atterrissage et les volets pour réduire la vitesse en finale et avoir un atterrissage à plus faible vitesse au contact du sol. Pendant cette arrivée sur Santa Maria, la navigation s'est poursuivie grâce au radiocompas de Santa Maria, appelé aussi l'ADF. Ces balises radioélectriques émettent pour les identifier des signaux sonores sous forme de points ou de traits. Si le vol est parfaitement sur l'axe de la balise, on entend un son continu. Les deux sons se rejoignent. Et s'il y a écart, vers la gauche, on perçoit des sons courts, des points. Et si c'est vers la droite, des sons longs, comme des traits. On a donc ainsi une possibilité de vérifier que l'on suit l'axe prévu. Mais la fiabilité des balises ADF de cette époque n'est pas parfaite. Car les composants de fabrication des boîtes que l'on appellerait électronique aujourd'hui, n'ont pas la rigueur et la précision des pièces d'aujourd'hui. À l'époque, c'était souvent des ampoules, donc d'une fiabilité relative. La puissance d'émission peut varier et les conditions météo peuvent influer grandement sur la réception à bord de l'émission. Or, lors des essais effectués dans la nuit du 7 au 8 décembre 1949, après l'accident, par une constellation identique, on va constater effectivement des interférences entre les émetteurs terrestres du Portugal et de Santa Maria, entre le signal de Séville en Espagne et celui de Santa Ana, l'aérodrome qui était devant nous. En fait, le chevauchement des ondes perturbe l'orientation exacte du vol, suivi par les pilotes, de plusieurs dizaines de kilomètres, et amène la constellation sur São Miguel, ou au contraire du beau temps sur Santa Maria, signalé par la tour de contrôle, l'avion se retrouve et traverse une couche nuageuse épaisse qui intrigue les pilotes puisqu'ils en parlent à la radio et les empêche de percevoir la présence de la montagne qu'ils percutent malheureusement quelques secondes après. Aujourd'hui, dans la mesure où les pilotes respectent la navigation d'une façon rigoureuse, et c'est bien sûr le cas, les équipements électroniques sont d'une fiabilité extraordinaire et d'une précision étonnante. Le GPS en service actuellement trace des routes et des circuits d'approche merveilleux qui nous assurent une grande sécurité, quel que soit le temps. C'est pourquoi les vols d'aujourd'hui sont si nombreux et sont réalisés en toute sécurité à travers le monde.
En résumé, l'accident a été provoqué par des interférences d'ondes, la masse nuageuse sur Santa Maria, et peut-être un manque de vigilance aussi des pilotes, non ?
Il faut se remettre à l'époque et dans la mesure où les gars suivaient leur radiocompas, ils avaient au départ donc confiance en lui. Et il est certain qu'ils auraient peut-être pu réagir au fait que la météo était pas bonne et était complètement différente. Donc ce qui laisse penser que peut-être une remise de gaz à temps aurait permis de dégager au-dessus de la mer et de découvrir qu'effectivement un peu plus loin il faisait beau, malgré que ce soit la nuit, et de pouvoir faire cette correction qui aurait sauvé tout le monde.
Voilà donc le drame de cet avion, de ce Super Constellation. Bien sûr, il n'y a eu aucun survivant. Ça fut terrible quand même, puisque que ce soit aussi bien les pilotes, tout le monde a disparu. Hein. On a tout de suite déclenché les secours. Hein. Cela a été quand même une grande émotion dans le monde, on peut dire. Le décès de Marcel Cerdan, le décès de Ginette Neveu, de son frère, et de tous ces passagers. Il y avait même dans l'avion des bergers qui quittaient leur Pyrénées pour aller vivre aux États-Unis. Mmh. Il existe un livre, si l'histoire vous intéresse, c'est l'histoire de ce... Ça s'appelle Constellation, où l'histoire est racontée en détail. C'est quand même intéressant à voir ce qui s'est passé. Et tous ces gens qui étaient quand même dans cet avion ont perdu la vie. Ça a été un peu sinistre, hein. Les corps n'ont pas tous été reconnus, on les a confondus, et il a fallu presque 2-3 mois pour resituer tout le monde et donner la sépulture à chaque personne qu'elle méritait. Donc vous nous avez rassurés en disant que maintenant il y a une sécurité nettement supérieure, si j'ai bien compris, de l'électronique, et puis un peu, peut-être plus de rigueur aussi de la part des pilotes, peut-être, bien que il y a toujours des drames, hein, ça existe encore. Hein.
Oui, il est certain que la précision dans l'enseignement, dans l'entraînement des pilotes a augmenté, et permet d'éviter des choses de ce genre, bien qu'on ait encore des catastrophes où on se rend compte que l'homme n'est pas tout à fait idéal, si on peut dire, et que souvent l'équipement moderne permet de suppléer justement aux défaillances de l'homme. Quoi.
Maintenant, l'appréciation des éléments météo sont beaucoup plus fins qu'auparavant, mais est-ce qu'il reste quand même toutefois des interrogations ou des choses qui peuvent être mal appréhendées ou cernées? Est-ce que l'homme a toute la maîtrise sur les prévisions météo, notamment pour l'aviation?
Ben, on a une précision extraordinaire, parce que les points de relevé sont beaucoup plus importants que dans le temps. On a les satellites qui permettent d'avoir les photos, évidemment, vues du dessus de tous les systèmes d'évolution de dépression anticyclone, ce qui donc permet après l'organisation des prévisions d'une façon très fine, puisqu'on a cette couverture qui permet de constater l'avancée de telle ou telle perturbation, ce qui permet d'avoir une prévision parfaite. Bon, il restera toujours l'exploitation de ça à un moment donné, puisque le pilote se trouve confronté durant son vol. Même s'il connaît tout ce qu'il doit rencontrer, il va se retrouver dans la réalité. Et dans certains phénomènes comme les orages très importants, en particulier ceux qui existent sur ce qu'on appelle le poteau noir, et qui nous permet malheureusement de se rappeler de la catastrophe du Rio Paris, et de se retrouver dans les conditions extrêmes de la météo. Quoi. Donc givrage et puis turbulence extrême. Quoi.
Est-ce que les pilotes ont toutes les qualités psychologiques, la formation psychologique pour affronter ces aléas qui ne sont, bien sûr, comme des aléas, ne sont pas prévus, des circonstances gigantesques, un orage à cette altitude-là, ça doit être quand même quelque chose d'important. Hein ?
Oui, il est évident que les orages sont les plus importants. D'abord, on commence par les contourner, puisqu'on a des radars de bord qui permettent de les détecter avec précision. Et on contourne en général toujours les cellules, il ne s'agit pas de rentrer dedans, puisqu'on a des phénomènes d'une violence extrême et couramment des variations, ce qu'on appelle les variaux positifs ou négatifs, c'est-à-dire les montées ou descentes qui vont tourner à plus 30 ou plus 40 mètres secondes et puis ensuite moins 20, moins 30 mètres secondes sans surface de transition. Donc c'est des effets de cisaillement qui sont évidemment excessivement mauvais pour les machines et pour les cellules. Il est arrivé d'ailleurs que des avions relativement petits soient même déformés par des phénomènes comme ça. Et par conséquent, la première chose, c'est de contourner ces orages. Mais si par hasard la situation amène à ne pas pouvoir le faire, eh bien, l'autre solution, c'est de passer par-dessus, ce qui est faisable avec les avions à réaction, qui volent donc à 10-12 000 mètres, passent à peu près au-dessus. Sauf justement dans les parties centrales du monde, puisque si on a des orages couramment chez nous qui montent à 10-12 000 mètres en France, les orages au niveau de l'équateur, ça monte à 15-16 000 mètres. Alors que si c'était sur un pôle, nord ou sud, c'est 6500 mètres. Donc, dans les grands vols, qui évidemment sont amenés à passer dans les zones comme le poteau noir, il y a que les avions réaction qui pouvaient passer au-dessus, mais malgré tout, ils tendent à contourner si c'est possible. Et grâce aux informations précises des radars météo, ceci est réalisable. Maintenant, pour ce qui est de la capacité des gens, des pilotes, il est évident quand on est situé au maximum dans des difficultés, la capacité de réaction de chacun se retrouve justement dans la possibilité qu'a la personne de se maîtriser d'abord pour pouvoir être disponible et réagir sainement, ce qui n'est pas forcément facile. Et puis nous ne sommes pas avec eux à ce moment-là, comme c'était dans le cas du Rio Paris, où les difficultés s'accumulaient et étaient très grandes, puisque tout ceci était en vol de nuit, sans référence extérieure, sans tableau de bord allumé, et qu'ils n'avaient que l'instrument correspondant à l'horizon artificiel de secours, qui est tout petit, pour se référencer. Mais là, je pense qu'on ne peut rien dire, parce que les pilotes, quand ils sont en situation difficile, ils sont tout seuls et nous ne sommes pas avec eux. Nous n'avons pas le droit de juger.
Voilà, alors pour terminer l'émission, moi je vous propose, puisque nous sommes dans le cadre du centenaire de la mort de Claude Debussy, je vous propose un extrait de la sonate pour piano et violon de Claude Debussy, justement avec Ginette Neveu et son frère Jean Neveu.
Thank you.
sonate pour piano et violon, qui clôture cette émission aujourd'hui très passionnante sous le signe de la musique classique et puis aussi des aspects plus technologiques autour de l'aviation et des aventures humaines qui se sont déroulées, pas forcément toujours sous des meilleurs auspices. En tout cas, ben, merci à tous les deux, Michel. Je vous laisse dire au revoir à votre invité, Michel.
Au revoir et merci beaucoup. Hein. Ça nous a bien éclairé quand même sur cette aventure un peu humaine et dramatique, hélas.
Voilà, mais écoutez, je vous remercie de m'avoir accueilli.
De l'autre côté de la musique, une émission proposée et présentée par Michel Giardella. Ainsi s'achève cette émission autour de ce fait et puis aussi de ce phénomène de société que représentaient bien ces deux individus, hein, Marcel Cerdan et puis aussi Ginette Neveu. Michel, je vous laisse conclure avec peut-être toute l'importance qu'avait Ginette Neveu en ces temps.
Oui, Ginette Neveu, dans les témoignages qu'elle nous a donnés par le disque, était quand même une des plus grandes violonistes françaises et du monde, et chose sinistre, elle est morte à 30 ans. C'est un peu triste, nous avons perdu beaucoup de choses.
Une courte carrière qui a été aussi bien remplie.
Bien remplie, tout à fait.
Ben merci à vous, puis à votre invité Michel, pour le côté un petit peu plus aussi technique, hein, de tout ce qui a pu se dérouler au niveau de l'aviation. Merci, à bientôt.
À bientôt.